Bonjour, bienvenue dans cette table ronde dont l'intitulé est auteur de science-fiction, créateur d'univers. Alors, nous avons des créateurs d'univers à cette table et nous allons commencer par le plus célèbre d'entre eux, sans doute, que nous sommes tous très heureux d'avoir avec nous, Christopher Priest, ici, qui nous vient du Royaume-Uni, qui a écrit de grands et magnifiques romans. Le monde averti a marqué l'histoire de la science-fiction, j'espère que vous l'avez lu. Il y en a eu beaucoup d'autres par la suite. Il y a eu l'archipel du rêve, Futur intérieur, la machine à explorer l'espace, le don, le prestige. Vous les avez vus sous la bulle du livre, vous avez sans doute profité de cette occasion pour vous les faire dédicacer. Donc, je m'arrête là dans les présentations. Nous allons surtout laisser Christopher vous parler de son œuvre. Je continue avec Hugo Verlhomme. Hugo Verlhomme, qui est un grand voyageur, qui vit dans une île en Bretagne et qui a toujours été...
C'est ce que j'ai lu sur...
Si les biographes nous mentent... Bon. Ah oui, non, je ne l'ai pas inventé, mais... être daté. Donc, en tout cas, passionné par la mer, c'est toujours vrai. qui écrit beaucoup pour la jeunesse, mais pas seulement, qui écrit du fantastique, qui a écrit, mais pas seulement non plus, qui parle de la mer, mais aussi d'un tas de thématiques en rapport avec la mer, qui je connais bien à la fois comme terrain de jeu, de sport et d'aventure, avec un premier ouvrage sur le surf, ça c'est vrai, c'est pas une épouvante, avec des ouvrages sur les dauphins, sur les marsouins, donc Mermer, sa suite Sable, c'est pas bien, j'ose plus parler, Sable avec un S à la fin, majuscule comme celui du début. Voilà donc qui va nous parler lui aussi des univers que cela lui inspire. À ma gauche, Matt Verdier, qui vient de publier son premier roman, qui s'appelle Corpus Prophétae, qui a été publié chez Mimos, qui est sorti en avril, donc tout frais, tout frais. Un thriller ésotérique, donc on est à la fois dans la science-fiction, puisqu'il y a des voyages dans le temps. Ésotérique parce que le personnage central c'est le Christ. Faut m'arrêter hein, si je dis des avec donc un rythme soutenu, un côté polar et qui bien qu'il soit tout récent commence déjà à avoir de très bonnes critiques. Et enfin un prestigieux auteur français à ma gauche
qui n'a pas écrit prestige
mais qui n'a pas écrit de prestige et ça vient de m'arrêter avant que j'en fasse. Qui écrit du space opéra, qui porte un intérêt très grand à la science-fiction et au space opéra depuis longtemps, puisque Laurent a écrit au moins une quarantaine de romans, mais on oublie sans doute en disant 40.
Non, c'est
une quarantaine, dont en particulier le cycle d'Omal, que vous avez sûrement lu. Et si ce n'est pas le cas, il faut le faire. Je vais quand même en citer quelques autres. Les chasseurs de sève, quelques romans de fantasy, hein, pas que de la science-fiction. Qu'on a quelquefois comparé à Jack Vance du point de vue des univers qu'il mettait en scène. Mais je demanderai aussi à Laurent de nous faire part de ses réflexions sur la science-fiction. Puisqu'il a été un des premiers à réaliser une thèse sur les créateurs d'univers dans la science-fiction. Donc, on est magnifiquement au cœur de notre sujet. Et je pense qu'il est logique de demander à Laurent s'il veut bien nous poser un peu le cadre en nous disant comment on les construit, ces univers, quels sont les constats les plus significatifs qu'il a fait lorsqu'il les a analysés.
je vais essayer de me rappeler parce que c'est une thèse qui remonte à 1997, donc ça fait un bout de temps pour moi. J'avais étudié plus exactement les livres univers, qui sont en fait des grands cycles de science-fiction, et j'essayais d'analyser ça sous un aspect presque extra-romanesque, qui est la création d'univers, un acte littéraire. Il y a aussi une sorte d'acte démiurgique à la base, alors pas forcément à la base, parce que ça peut se révéler en cours d'écriture, mais j'essayais de poser, pas une définition, mais disons des caractéristiques de ce qui n'est pas vraiment un genre, parce qu'il est assez peu représenté dans la science-fiction, parce que tout simplement c'est des énormes masses qui sont un peu comme des astres massifs dans la science-fiction. Il y en a finalement assez peu, parce que ça occupe énormément de temps d'écriture, ce sont des gros cycles. J'étais parti de ce qu'on considère comme le livre univers fondateur qui est Dune, et j'ai étudié Heliconia de Haïtis, No de Stéphane Vull, Hyperion de Dan Simmons, et puis une sorte de traduction populaire du livre univers qui est La Compagnie des Glaces de G. Girardot. C'était ça, et à travers ça, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui les différenciait de, par exemple, un planète opéra ce qu'on appelait les planetary romance, ou les univers partagés du genre Warhammer ou Star Wars, etc. Faudrait résumer la thèse, qui est un peu ce qui est pas vraiment le cas ici. Vous pouvez sur le net et puis taper livre univers Laurent Jeunefort et vous trouverez le lien de la thèse in extenso sur un site du CNRS qui répertorie les thèses.
On a une indication intéressante. On va peut-être commencer par Maud Verdier, notre plus jeune auteur. Un premier roman, ça se construit comment? C'est un projet ambitieux, complexe. Comment ça se prépare? Comment on met en place l'univers du récit et ce qui s'y passe?
Complexe, oui, parce qu'en fait, c'est... C'est-à-dire que, si vous voulez, j'avais pas prévu d'écrire un roman de science-fiction, en fait, initialement. J'avais prévu d'écrire un roman sur le prophète. J'avais envie de gratter un petit peu le vernis qu'on a sur nos fresques, les fresques de nos églises. Et je voulais faire ça d'une manière un peu neuve. Je n'ai pas du tout la culture SF. Et en fait, j'avais l'intention de dépeindre le Christ d'une manière vraiment comme on n'avait encore jamais faite, je crois. Pour ça, il fallait que mes personnages puissent aller dans le passé. Donc, je suis arrivé en fait à utiliser la science-fiction plus comme un outil que comme un but. Je n'avais pas l'intention encore une fois d'écrire en science-fiction. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait que le roman ne se passe pas si loin que ça, parce que j'aurais très bien pu faire se dérouler l'action dans deux trois siècles par exemple, mais voilà, je m'en suis tenu à quelques décennies de quoi en fait permettre à l'homme de découvrir le voyage temporel. Et puis voilà, alors sur la construction, c'est vrai que j'avais rien prévu pour tout faire. J'ai pas fait de plan, je sais pas faire ce genre de choses, alors peut-être que ça vient de moi. C'est venu comme ça, assez spontanément. Mais c'est certainement la raison pour laquelle j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce roman. Ça a duré près de 6 ans. Donc voilà.
On aura l'occasion de reprendre la discussion, mais je vais demander tout de suite peut-être à Hugo Verlaine de nous expliquer comment il construit les siens. La vie et l'œuvre sont très proches dans ce qu'il écrit. C'est mieux en s'approchant du micro. C'est le message que nous fait passer le public. Donc, on va tous être proches du micro. Donc,
100% de la planète Mars est cartographiée, c'est-à-dire qu'on connaît toute la planète Mars, on ne connaît que 5% des fonds marins. Alors la science-fiction pour beaucoup c'est l'espace, ce que je comprends, parce que je suis passionné de science-fiction et d'espace, j'ai beaucoup lu de science-fiction dans ma jeunesse, j'étais un fan de Dune bien entendu, et moi j'ai voulu transposer la science-fiction dans l'océan, parce qu'en fait le vrai monde extraterrestre pour moi c'est l'océan. L'océan c'est par définition un monde extraterrestre, puisque ce n'est pas la Terre, c'est 70-72% de la planète, c'est la mer et les océans. Et c'est un milieu que finalement on ne connaît pas du tout. D'ailleurs, il est intéressant de voir que le prochain Avatar va se passer en grande partie sous l'eau de la planète Pandora, parce que le réalisateur d'Avatar, n'est-ce pas, est un passionné de plongée sous-marine. Il est lui-même, Cameron, descendu à 11 000 mètres dans son propre sous-marin qu'il a fait construire lui-même. Et lui aussi, qui est quand même un grand auteur de science-fiction, on peut le dire, et bien finalement, il a compris que sans doute que c'est sous l'eau que ça se passe, qu'on peut se tourner. Donc moi, j'ai créé mon roman à partir de cet amour de l'océan que j'ai. Mais mon amour de l'océan, il n'est pas celui d'un... Forcément, j'aime tous les... Je pratique beaucoup de choses sur l'océan. Mais disons que j'ai une vision de l'océan qui n'est pas seulement le plaisir qu'on peut avoir à surfer, faire de la voile ou à plonger. Parce que je pense personnellement que l'océan, c'est un milieu spirituel. Je ne suis pas croyant dans les dieux classiques. Et si je devais croire dans un dieu, je croirais plus dans l'océan que dans aucun dieu. Parce qu'après tout, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle tous les hommes sont d'accord sur la planète. Une seule, et je vous défie d'en trouver une deuxième, c'est que la vie est née de l'eau. Toutes les religions du monde, quelles qu'elles soient, disent la même chose. Les philosophes et les scientifiques. Pour arriver à mettre d'accord tous ces gens-là, il faut quand même quelque chose qui soit beaucoup plus grand que nous et qui soit à l'origine de notre existence. La vie est née de l'eau. Ça a l'air tout bête comme assertion. Et pourtant, ça nous mène très très loin dans la réflexion. Ce qui fait que moi, quand je pratique l'océan, quand je me baigne dedans, quand je suis dans les vagues, puisque je pratique le body surf, à savoir je surfe sans planche avec le corps, j'ai pas seulement la sensation d'être dans un univers ludique, agréable, où il y a des petits poissons pour l'été, j'ai vraiment l'impression de plonger dans un univers pensant, spirituel, qui communique avec moi. C'est ce que j'ai voulu aussi transmettre dans les bouquins en créant des vraies aventures. Évidemment que les gens, par exemple, sont passionnés par les dauphins et les baleines. Alors moi, j'aime beaucoup les dauphins et les baleines. Je les ai fréquentés de très près. J'étais spécialisé là-dedans. J'ai aidé à les sauver d'une certaine façon. Je travaille avec beaucoup de gens qui s'occupent de ces passés. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement ces gentils mammifères qui nous ressemblent. C'est les faits qu'ils font sur nous. Pourquoi les gens sont passionnés à ce point-là par les dauphins et les baleines? Et je pense que ce sont nos équivalents dans l'océan. Il faut savoir que le cerveau du Nord, par exemple, est plus développé que le cerveau humain. C'est-à-dire qu'au niveau des spécialistes du cerveau, si on regarde un cerveau de cétacé, eh bien, il a non seulement les mêmes hémisphères que nous, il a plus de circonvolutions, les circonvolutions étant ce qui montre le degré d'intelligence, et en plus, les cétacés ont un troisième hémisphère derrière les deux hémisphères, dont on ne sait pas à quoi il sert, qu'on appelle une zone paralimbique, et dont je pense personnellement qu'elle sert à une communication non verbale, ce sur quoi on se penche beaucoup dans la science-fiction, la télépathie, la communication de personne à personne. Et j'ai eu, et mes amis qui plongent avec les dauphins et les baleines, des expériences comme ça, on a tous eu, quand on s'est approché des cétacés, des expériences qui sont un peu du niveau du paranormal, de la télépathie, de la communication non verbale, en dehors du fait qu'ils ont un sonar qui voit à travers vous, qui peuvent voir vos organes, qui voit exactement vos émotions, ils savent si vous avez peur, si vous êtes malade, si vous êtes enceinte. Donc toutes ces choses-là, finalement, sont des éléments de science-fiction, et pourtant c'est la réalité, c'est notre Terre. Mais l'océan est trop considéré comme un lieu de vacances, un lieu où on pêche des poissons, etc. Voilà, moi j'ai voulu donc transposer toutes les idées, les concepts de la science-fiction dans l'océan.
Bon projet. On va demander à Christopher Priest qui nous a inventé des univers aussi, alors peut-être pas au sens de la cartographie d'un environnement caractéristique du space opera par exemple, mais de bien d'autres manières et avec des émotions particulières, des climats très importants, des personnages
mostly wasn't at all like the what we see in the films, what we read in the Western novels. A myth has been created, a world has been created by consensus, in which we all understand the rules as big. Every time you see a Western, you add to it. And quite an interesting way, World War II is now becoming fictionalized as a kind of consensus world reality that's being developed by creative writers. So, for instance, there was that incredibly awful film by Quentin Tarantino a few years ago, Inglourious Basterds, which had this totally invented World War II, which had Nazis scalp hunting people, and Hitler going to the theatre in France, and all sorts of totally invented things, but it was still identified with World War II.
La première chose que je voudrais dire concernant la création de l'univers, alors même si on identifie souvent la création de l'univers à une tradition science-fictive, en fait, ça remonte à une tradition littéraire antérieure, et c'est principalement l'Ars Amé. Il y a une assez grande différence, mais si l'on parle donc de la création du monde traditionnel, un exemple assez classique, c'est le roman historique, où en fait on crée une sorte de monde consensuel, de version de l'histoire, dans laquelle on accepte de façon consensuelle, dans laquelle la version romancée d'un écrivain décrivant une période de l'histoire va devenir la version qu'on va accepter globalement et qui va être différente des événements réels. Et en fait, l'histoire se trouve falsifiée ainsi d'une façon qui est assez intéressante. L'exemple le plus évident, c'est l'ancien Ouest des États-Unis et la conquête de l'Ouest. On a tous des images en tête, des romans, mais surtout des films de western. En fait, très probablement, ça ne ressemblait absolument pas à ça, mais de façon intéressante, il s'est construit une espèce de mythe consensuel auquel on croit, et chacun d'entre nous, quand on voit un western, quand on voit un film, on y ajoute à ça. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que la Deuxième Guerre mondiale suit un peu le même chemin, où il se crée une espèce de consensus sur sa réalité et sur une forme de fiction qui diverge des événements réels. Un exemple assez connu, par exemple, c'est ce film atroce de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, où il y a une version très inventée, très fictive de la Deuxième Guerre mondiale. On voit par exemple Hitler qui va au théâtre en France, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas arrivées, et pourtant, le public accepte cette version-là, et donc on se retrouve avec une vision qui devient mythique, fictive, de sa période de l'histoire, et ça revient à une création d'univers.
More general views on world building later, but Sylvia actually asked me how I began. My own is called Dream Archipelago, and it has been from the outset an attempt to subvert the idea of world building. I see what I did and am doing in this world as an exercise in metaphor, which goes against the rules of world building, I think, because it's in a sense it's anti the world. There's a novel of mine which is called Les Insulaires, which came out earlier this year, in which it's explained it's impossible to map the Dream Archipelago. And in fact, most world building books come with a map, and you'll never ever have a map of mine because it's impossible to make one. I came across it because writing a short story, and needed the background for it, and I had an idea, and it sprang to life. It was around me. It just suddenly, this whole world appeared in my mind, and I wrote the short story, and I found that I could go back to that world for other short stories. I wrote 5 short stories, stopped, I lost interest, and then 20 years later, Jacques Champon, an old friend of mine, was doing an anthology, and he wants a new story, and suddenly remembered the Dream Archipelago and wrote a new story, and since then I've been finding it increasingly interesting.
Pour répondre à la question de Sylvie, maintenant je reviendrai sur des idées plus générales sur la création d'univers. Donc Sylvie me demandait comment est-ce que j'ai commencé à créer mon univers, en l'occurrence ici, cet univers s'appelle l'archipel du rêve. Et en fait, dès le début, dès les premières idées, mon idée, en fait, ça consistait à subvertir l'idée même de création d'univers. Ce que j'ai fait et continue à faire, c'est un peu un exercice
ça se bâtit, oui, effectivement, par moi, j'ai tendance à, d'une manière générale, à construire mes univers et les peupler après. Enfin, les peupler d'histoire après. L'histoire, chez moi, c'est un phénomène émergent des conditions initiales que je pose dans les univers en question. Donc, c'est pour ça que j'ai en général pas trop à me creuser la tête pour les histoires, parce que finalement, elles émergent de l'univers même, en fait. Et donc, ça peut passer par des cartes, des lexiques, enfin, tout ce qui, chez certaines personnes, ne sont pas du tout romanesques. Pour moi, ça fait partie intégrante de l'œuvre, et c'est même, des fois, ce qui m'intéresse le plus. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin et que je lisais, j'avais lu Le Seigneur des Anneaux, ça m'avait globalement gonflé, hein, je dois dire, mais en revanche, les annexes m'avaient fasciné. Et je m'étais pris à me fabriquer mes propres histoires à partir des cartes et des lexiques et ce genre de choses. Donc je dois avoir un cerveau qui ne fonctionne pas bien et qui embraye bien sur justement ce qui n'est pas a priori romanesque en fait dans ces univers-là. Et mais c'est vrai que je trouve que ça demeure mystérieux. Qu'est-ce qui nous pousse à, par exemple, faire une histoire dans un univers et puis on se dit que l'univers arrive à exister en dehors de l'histoire elle-même. Alors que l'univers devrait s'éteindre avec la fin de l'histoire. Mais il se trouve que ça, dans certains cas, ça n'arrive pas. On a envie de continuer à écrire des histoires dans des univers. Et c'est parce que l'univers, il fait partie de c'est peut-être ce qui est parfois le plus proche de l'auteur, et parfois l'univers plus proche de l'auteur que l'histoire elle-même.
Hugo, vous qui avez une vision d'un océan qui est un univers spirituel puissant, dont vous avez une vision très particulière, est-ce que vous diriez, comme vient de nous le dire Laurent, qu'il y a d'abord cet univers et cette approche de l'océan, et que les histoires naissent après avec les personnages qui les peuplent, ou ça se passe autrement?
Non, pour moi, je cite souvent la phrase de Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. C'est-à-dire que d'abord, j'avance comme un somnambule, je ne sais pas où je vais, c'est ce que disait tout à l'heure Matt, je crois. Et c'est seulement après que je réorganise, que je deviens Dieu, puisque je connais le destin des personnages. J'ai créé un univers, donc maintenant je sais ce que je peux faire et pas faire à l'intérieur. Mais c'est vrai que dans un premier temps, je me laisse totalement porter par l'écriture, presque comme de la poésie, une inspiration, je dirais, oui, enfin poétique et de l'imaginaire total. Moi, ce qui m'intéresse souvent, je dis dans l'écriture, c'est que je découvre chaque jour ce que je vais écrire. Je suis comme le lecteur, c'est-à-dire que, et je fais exprès en plus de mettre mes personnages dans des situations très difficiles. Ce qui est toujours amusant dans un livre, c'est que les personnages prennent leur propre vie, c'est-à-dire qu'au départ, on se dit, bah, lui, il va faire ci, lui, il va faire ça. Et puis en fait, il y en a un, brusquement, il meurt, et puis l'autre, on croyait que ça allait être un petit personnage dans un coin, et puis il revient, et on se dit, bah, lui, il est plus important que prévu. Donc pour moi, il y a une espèce d'excitation chaque jour quand j'écris, puisque j'écris tous les jours, 7 jours sur 7. Qui est de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va leur arriver? Et donc, moi, je ne sais pas ce qui va arriver à mes personnages, c'est pour ça que j'aime écrire. Alors, il y a des gens qui font des plans très précis, et c'est parfait, c'est très bien. Mais moi, je fais ce premier jet, disons, qui est vraiment de l'invention, de la poésie, de l'imaginaire pur. Et après, là, je deviens Dieu, puisque je connais tous leur destin, je sais ce qui va leur arriver. Donc, je peux avoir des rêves prémonitoires, je peux mettre des choses. Préparer des petites choses comme dans un polar, quand on voit que l'auteur sait qui est l'assassin, pourquoi on l'a tué, on revient en arrière pour remettre tout en place. Et c'est ce que je fais, moi, avec les créations d'univers. Mais je me laisse avant tout porter par les univers qui sont en moi, et je les découvre en les écrivant. C'est ça qui est passionnant dans l'écriture, c'est qu'on se découvre soi-même. C'est des choses que j'écris, j'ignorais avant que je les avais en moi. Et c'est ça que j'aime dans l'acte d'écrire et dans l'acte de créer des univers fictifs et imaginaires.
On va demander à Matt, qui nous a dit qu'il avait travaillé pendant 6 ans sur son projet de roman qui était né de l'envie de creuser la vision qu'on pouvait avoir du personnage du Christ. Donc il y a un univers qui s'est bâti progressivement. Est-ce que
personnage central, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un parallèle avec mon personnage principal, sans en dire trop, mon personnage principal va découvrir sa propre histoire, en fait, en même temps que le lecteur, lui, va découvrir finalement sa propre histoire, en fait, parce qu'on apprend énormément de choses. Sur notre civilisation, c'est-à-dire que je me suis un petit peu préparé l'histoire. Je ne me rappelle plus de votre question, en fait. Oui. Alors, c'est le cas. Disons qu'il est sous-jacent, parce qu'en fait, on le retrouve dans quatre parties que j'appelle les rushs. Enfin, en tout cas, voilà, donc on le retrouve en filigrane, si vous voulez, dans toute la trame. En fait, l'intrigue principale se passe à la fin du XXIe siècle, en 1979, à plusieurs époques différentes, en fait. Mais voilà, c'est le fil conducteur, c'est le Christ. Ouais.
Vous avez mis en place des univers les uns les autres de manière très diverse, avec des principes très différents. On demande toujours aux auteurs quelle est la genèse et par quel processus ils passent. Moi, j'aimerais bien aussi que vous nous disiez ces univers que vous nous offrez, qu'on partage avec vous. Est-ce que vous continuez à les visiter une fois que le roman est terminé? Est-ce que vous avez envie de continuer à rêver aux univers que vous avez créés dans des romans une fois qu'ils sont terminés? Je ne sais pas qui va commencer, mais peut-être que Christopher pourrait nous dire quelque chose, parce que cet univers de l'archipel du rêve est tellement fascinant qu'on aimerait savoir quelle relation l'auteur continue à entretenir après coup avec ce qu'il a créé.
I wrote five short stories. I then wrote two more, one for Jacques Chambon and one for somebody else. And then I realized that I was getting things wrong, that I was confusing bits and pieces of it. I gave items and the same name as somewhere else. And so I made a computer spreadsheet of what I read from my old books, which were now 20 years old. And when I'd done this, I found that it was actually like a short story. It was it kind of like the naming of the names. It was like a nomenclature of the imagination. And at that point, I had this idea that this world of mine needed was a tourist guide, somewhere that if you went there, it would tell you where the best beaches were, and where you could get the best drugs, and where you could take your children if the beach was safe, or if you were a surf rider, where the big waves were, or if you wanted to go to these religious shrines, where those were. And so I started writing a lonely planet guide, a rough guide to these non-existent islands. And I did it for about a month, and I found it was getting rather boring because it was completely made up of no interest to anyone except me, and even I wasn't interested. So I went back and started again, this time started talking about the people who lived on the island. This is why the adventure books were the islanders rather than the islands. And it's about the people, and that's all I can say about it at the moment. That's how that book came about. What I'm doing at the moment is I'm working on two more books about Dream Archipelago, which will develop it further. So it's very much a work in progress for me. Anytime people ask me to define it, I want to sort of just say I can't, because it's changing all the time.
Vous continuez à me poser des questions difficiles. Pour commencer, peut-être pour vous parler à nouveau un peu de la genèse de l'archipel du rêve, en fait, je
Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de me tromper sur pas mal de choses. Je confondais des, certains détails, certains aspects. Je donnais le même nom à d'autres endroits, etc. Du coup, je me suis fait un grand fichier dans un tableur. J'ai repris mes vieux livres, ceux que j'avais écrits 20 ans avant. Et j'ai commencé en fait à recenser tous les détails que je donnais. C'était un petit peu en fait une façon de nommer les noms, une nomenclature de mon imagination. Et là, je me suis rendu compte que ce qu'il fallait à mon idée, c'était d'écrire un peu une sorte de guide touristique, un truc qui vous indique où on trouve les meilleures plages, où est-ce qu'on peut avoir les meilleures drogues, où est-ce que vous pouvez emmener vos enfants parce que la plage et la mer est sûre, où est-ce que vous pouvez aller surfer parce que c'est là qu'il y a les meilleures vagues, où est-ce que vous avez les meilleurs sites religieux, etc. Un peu une sorte de omniplanète de l'archipel du rêve pour des îles d'ailleurs qui n'existent pas. Puis au bout d'un mois d'écriture, je me suis rendu compte que c'était finalement assez ennuyeux parce que tout ça était déjà, c'était inventé, c'était fictif, et que ça n'intéressait certainement personne, moi ça fait penser que ça m'intéressait pas moi. Donc j'ai appris tout sur la période de cette écriture, et là j'ai commencé à écrire sur les gens. Là déjà c'était beaucoup plus intéressant, et finalement c'est pour ça que le livre qui a été publié, que vous avez entre les mains, s'appelle Les Insulaires et pas Les Îles, puisque c'est sur les gens. Ce que je peux dire maintenant est sur le processus, c'est ce que je suis en train de faire sur cet archipel. En fait, je suis en train d'écrire encore deux autres livres sur l'archipel du rêve. Donc, tout ça pour moi, c'est un peu un travail en cours continu. C'est un peu la façon dont je le vois. Donc, on me demande parfois de le définir, et ce que je peux répondre, c'est que j'en suis incapable, puisque pour moi, il change tout le temps, et c'est la nature de cet univers-là, et pour moi, c'est toujours un travail en cours.
Finally, on this, I talked about my attempt to subvert the whole idea of world building. There's a sequence in The Islanders where I think there's four islands which are described one after the other. They all have names which are very similar to each other, and at least two of them are in the same place. And the section of the novel which you'll find is fortunately not very long. About the attempts of everyone to sort out which island is which. In effect, it's me trying to work out what the hell I'd done when I got the spelling wrong and I did another story about one of the islands. It's a novel about, in a sense, about the act of creation.
Et pour terminer sur ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que j'essayais de subvertir l'idée même de création d'univers, il y a une séquence dans Les Insulaires où quatre îles sont décrites l'une après les autres. Et en fait, elles ont des noms très semblables, et d'ailleurs, deux d'entre elles apparemment occupent le même espace géographique. C'est une section du roman qui, quand même, n'est pas trop longue, heureusement. Et c'est une tentative, en fait, où les gens essaient de déterminer laquelle est laquelle. Et en fait, en réalité, c'est moi qui essaie de déterminer laquelle est laquelle, puisque je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, je m'étais un petit peu trompé sur l'orthographe, etc. Donc, en fait, finalement, tout le roman parle en filigrane de l'acte même de la création.
Laurent, tu viens de nous dire que lui, par contre, c'est intéressant parce que vous nous dites des choses relativement opposées. Et du coup, on a une vraie question là qui émerge. Laurent vient de nous dire que l'univers s'était construit, qu'il était premier, qu'il était très stable, qu'il avait pris une consistance importante. Donc, son rapport à l'univers qu'il a créé est probablement très différent de celui que vient de nous expliquer Christopher Priest, d'un univers en transformation perpétuelle qui s'interroge sur sa nature. Donc, est-ce que tu rêves dans le mal? Est-ce que tu as des histoires qui viennent spontanément dans cet univers?
Oui, au contraire. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Il ne faut pas imaginer forcément un cadre comme quelque chose d'uniquement limitatif, quelque chose qui va cerner, qui va encadrer, qui va donc poser un sort de carcan sur l'imagination. Moi, je le vois plutôt comme un tremplin, en fait. C'est on pose un système, en fait, c'est assez ludique de créer un univers et après de générer des histoires dessus. C'est presque un acte c'est un acte ludique à la base. C'est-à-dire qu'on pose on invente un système, mais par nature, le système évolue. Et donc, on voit comment il peut dysfonctionner, comment. Voilà, et ça se fait d'instinct d'ailleurs, c'est pas quelque chose où. C'est quelque chose qui n'est pas, forcément prévu d'ailleurs, comme un système peut fonctionner en cours de route. Donc, ça, au contraire, je pense qu'un système, à partir même d'un système qui a l'air très encadré, peut en fait réserver des grosses surprises.
On a pris beaucoup de temps, mais on va demander à Matt Verdier peut-être de nous parler de ce qu'il va faire par la suite, parce que voilà un projet qui est ambitieux, qui est arrivé à terme. Est-ce que ça fournit un cadre à réutiliser pour d'autres récits, ou est-ce qu'il faudra par la suite partir sur quelque chose de totalement différent?
Alors pas du tout, en fait je ne réutilise pas du tout le même cadre pour le prochain, qui est déjà bien avancé. Je repose toujours les mêmes questions. Donc, premièrement, je me suis posé la question de savoir qui était réellement, finalement, Jésus-Christ. Enfin, qui pouvait-il être et puis, dans le second, je vais plutôt me demander qui pourrait être, par exemple, l'Antéchrist. J'explore un peu ces mêmes thèmes ésotériques. Je ne réutiliserai pas le premier pour une suite. Éventuellement, on va parler d'ici quelques temps, pourquoi pas. Mais...
On sent qu'on va avoir un nouveau thriller ésotérique, quand même.
Oui.
Et les projets de Hugo, est-ce que cet univers est toujours aussi fécond? Il y a la science, il y a l'amour aussi.
Pour moi, c'est la même chose. La vie, c'est l'amour. Il n'y a pas de vie sans amour. Le seul intérêt, c'est l'amour. Donc, évidemment, mes bouquins parlent d'amour, ils parlent d'océan. Donc, celui-là, c'est le premier d'une trilogie. Ça s'appelle Samouraï l'océan. C'est un livre qui se passe dans le futur. On est dans un siècle où l'eau a monté partout. Ça, c'est pas de la science-fiction. Je pense que les gens commencent à comprendre. Parce que moi, je dis ça depuis 20 ans et on me traite toujours de doux rêveur. Mais c'est vrai que. La mer monte, elle monte de façon spectaculaire, le dernier rapport du GIEC le montre. La réalité est en train parfois de dépasser la science-fiction telle que l'avaient vu des gens comme John Brunner tout ça Zanzibar ou des choses comme ça. On est déjà beaucoup plus loin au niveau des menaces qui passent sur la mer aussi, qui sont absolument gigantesques. Ça, on n'en parle pas parce que c'est une chose, mais c'est évidemment présent dans le bouquin. Et donc, moi, je me sers de cette saga donc, pour aller beaucoup plus loin. Et dans le deuxième tome que je suis en train d'écrire, par contre, là, on quitte la Terre et on va dans une planète océane. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis que j'ai commencé à écrire, je vois qu'il y a beaucoup de rapports astrophysiques qui montrent qu'on a découvert des planètes sur lesquelles il y a de l'eau, puisque c'est ça qui me fascine toujours, c'est de voir qu'on fait des recherches extraordinaires pour trouver la vie extraterrestre. La vie extraterrestre, qu'est-ce que c'est? C'est là où il y a de l'eau, puisqu'on ne cherche qu'une seule chose quand on sort de la Terre, c'est de l'eau. Alors que de l'eau, on en a sur la planète. Et encore une fois, c'est un monde totalement inconnu. Il y a des créatures qui vivent dans les abysses qu'on ne peut pas connaître à la surface parce qu'elles explosent quand on les remonte. Donc il y a toute une vie dans l'océan, il y a des créatures qu'on n'a pas découvertes, il y a énormément de micro-organismes. Il y a énormément de choses à découvrir dans l'océan, mais là, je vais créer un monde qui sera entièrement océanique, avec uniquement de l'eau, et ça pose des problèmes spirituels, physiques, très très complexes. Il faut que ça tienne le coup aussi avec qu'est-ce que c'est qu'une planète, qu'est-ce que c'est que les autres planètes autour, l'attraction, la gravité, la gravitation, et donc là, ça devient très compliqué de créer un univers total comme ça, qui n'a pas de base terrestre. Essayez d'imaginer, vous verrez, c'est pas facile. Donc voilà, donc moi je me lance dans ce défi parce que mes premiers bouquins s'appelaient Mermer, c'est un livre qui se passe sous l'océan avec des créatures qui ne connaissent même pas la Terre, qui n'ont jamais vu la Terre. D'ailleurs, le bouquin commençait par le cauchemar d'un enfant qui voyait un monstre. Et sa mère va le consoler, elle se rend compte qu'il vient de rêver d'un arbre en fait, mais il n'a jamais vu d'arbre, donc pour lui c'est un monstre terrible. Donc voilà, je vais dans le deuxième tome de Samouraï Océan. Donc c'est une histoire de samouraï, c'est avec vraiment l'esprit du samouraï, même si les samouraïs datent du XVIIe siècle, et que là on est dans le XXIe, XXIIe siècle. C'est l'esprit du samouraï poussé dans l'espace,
j'aimerais bien vous poser à tous, mais répondre à qui veut, et si la question inspire. Vous êtes tous des auteurs, donc vous créez des textes, vous écrivez. Les univers, finalement, on peut les imaginer autrement. Est-ce que vous avez quelquefois envie de jouer avec l'image, avec le son, avec la musique, avec les ambiances sonores? La question se pose vraiment dans une période où le numérique nous permet d'envisager de passer bientôt du multimédia de toutes sortes. Donc, oui, je sais qu'il y aura un petit peu de place pour les questions. Je crois que peut-être autour de celle-là, il y en aura d'autres. Est-ce que le texte vous suffit pour créer vos univers? Ou est-ce que si on vous offre d'autres médias, ça vous intéresserait? Qui veut répondre?
Moi, je dirais rapidement que c'est une certaine partie du cerveau qui fonctionne quand on écrit. Par exemple, on ne peut pas dire un livre, on peut évidemment, mais ce n'est pas la même partie du cerveau qui fonctionne. Quand je disais tout à l'heure que les choses sortent de nous, artistes, comme un musicien qui improvise, et ben, c'est la même chose pour l'écriture. Alors évidemment, on peut imaginer les images et le son, mais pour moi, c'est presque un monde plus restreint que le monde de l'image, du texte, qui permet à tout le monde de se réapproprier complètement un univers, de le créer à sa façon. Dès que vous mettez des images, eh bien, ça y est, l'univers, il est exactement ce qu'il est représenté dans une image. Et c'est pour ça que le texte, finalement, est plus fort, de mon point de vue, que n'importe quelle image, même si elle est magnifique, avec des effets spéciaux formidables.
Non.
Je suis assez d'accord, en fait. Pourtant, je suis venu écrire parce que je ne savais pas dessiner. Je suis assez d'accord que la puissance de l'écriture, pour le coup, peut-être en particulier la science-fiction, elle est vraiment déterminante. J'ai découvert Priest avec le Monde Inverti. J'imagine pas ça en dehors de ma propre imagination. J'imagine pas ça à travers l'imagination d'un autre. Je serais forcément déçu. Pour Romain, par exemple, je me suis attaché à créer des extraterrestres justement qu'on ne puisse pas forcément se les représenter tout de suite dans leur intégralité. Je les ai j'ai dispatché la description à travers le roman sous forme un peu tachiste, parce que pour moi c'est la fonction importe plus que les relations importent plus que la chose en elle-même, que la description simplement physique en elle-même. Et ça, c'est vrai que par exemple, je n'aurais pas pu le faire à travers un média, qui passe par l'image, le cinéma ou la BD. Mais c'est des médias qui utilisent une autre grammaire. Donc il y aurait probablement moyen, mais il se trouve que pour ce problème-là, je n'aurais pas pu le faire.
Je pense que l'écriture se suffit elle-même. Enfin, en tous les cas, dans mon premier roman, j'ai essayé vraiment de dépeindre les couleurs, les odeurs, les impressions. Et je pense que voilà, ça suffit en fait. Pas besoin d'autre chose et sous une autre forme. Non.
Bon, on va peut-être avoir un consensus absolu sur cette question.
Swampy world, right?
je ne sais pas exactement ce que je pense vraiment sur, sur le sujet, en fait. Je pense que, au cœur de l'écriture de la science-fiction et de la fantasy, il y a toujours l'idée de créer un monde, même si c'est juste pour un récit court, une nouvelle, et qui n'ira jamais au-delà de ce récit, de 42 récits là. Mais je pense que c'est aussi un sujet qui change tout le temps. Pour ma part, quand j'ai commencé à lire de la science-fiction, en fait, l'idée qu'il y avait des cadeaux sur Mars était toujours très, très fermement ancrée. Et les gens écrivaient selon cette idée-là, et puis finalement, on a eu des photographies aériennes, on a envoyé des satellites, on a envoyé des sondes, etc. Et on s'est rendu compte que c'était un monde stérile. Et donc, l'idée était fausse, et je crois en fait qu'on a perdu une idée assez belle et assez perçue, qui était assez puissante. Moi, c'était une idée que j'aimais bien. J'imaginais, ça me plaisait d'imaginer cette Mars un peu comme une Venise, science fictive, avec des palais, avec des canaux, etc. La même chose s'est produite avec Vénus. Quand on l'a exploré, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout comme on imaginait un monde un peu marécageux avec des dinosaures qui dominaient le monde. Au contraire, c'était un endroit très toxique, empoisonnant, qui était très dangereux pour le qui nous est quasiment toujours impossible de visiter. Et là encore, on a perdu notre sorte de consensus sur cet endroit. Je pense que la science-fiction procède de cette façon-là, on modifie ce qu'on écrit pour que ça colle à ce que l'on découvre et ce que l'on sait. Sur la science des courants. Je pense que la tendance moderne de créer des mondes est une sorte de réaction à cet effet, à cette découverte. On cherche d'autres endroits, d'autres mondes qui peuvent nous convaincre. Je ne veux pas continuer à trop vous parler encore des insulaires, mais je pense que la différence vis-à-vis du reste, cette tendance de la création de mondes, c'est pour moi finalement, c'est un artifice. C'est une espèce de fond global. C'est pour moi un artifice qui finalement n'a pas de sens au-delà de l'acte littéraire et des mots sur la page. Je ne crois pas que je voudrais que quelqu'un s'en empare sous une forme picturale, par exemple, pour essayer de le représenter. Mais comme je l'ai dit au moment où je commençais à répondre, je ne sais pas vraiment ce que je pense vraiment sur cette question. Et peut-être que mon traducteur le traduira.
Écoutez, je crois qu'on arrive au bout du temps qui nous était imparti. C'est bien dommage parce que ce débat était absolument passionnant et je crois